développée dans le monde entier et s'est dotée d'un réseau efficace. Elle organise ou soutient des universités d'été annuelles, il y en a eu une ici à Poitiers il y a quelques années, des rencontres, des forums sociaux mondiaux appelés Contre Davos, auxquels se rajouteront les forums sociaux européens dès 2002, des manifestations ou Contre G8. ATTAC est présente dans la lutte contre le fonctionnement antidémocratique de la finance et de l'économie. En 2001, ATTAC se mobilise contre l'accord général sur le commerce des services, hein, la GCS, et a participé à le faire capoter. Donc ATTAC s'inscrit très fortement dans les campagnes du non au traité européen, rédige des manifestes, et récemment, en 2008-2011, elle se mobilise avec toutes les ATTAC d'Europe pour sortir l'économie de la spéculation, faire des propositions de sortie de crise, de solutions pour la dette, et donc la création d'un audit citoyen sur la dette, dont Poitiers fait partie. Il y a un collectif sur l'audit citoyen sur la dette publique. Donc il y a également un forum alternatif qui va avoir lieu à Marseille le 14 et 17 mars, un forum alternatif sur l'eau. ATTAC Poitiers donc existe depuis le début, hein, c'est-à-dire depuis 1998. Au début, il y avait trois collectifs. Il y en avait un à Poitiers, un à Châtellerault, un à Montmorillon. Donc celui de Montmorillon n'existe plus pour l'instant, mais celui de Châtellerault est bien vivant. Et justement, ils organisent une conférence vendredi qui vient, à 20h30, sur la décroissance avec Paul Ariès. À la salle Camille Paget, vous aurez des fascicules qui vous seront distribués si vous le désirez. Donc ici sur Poitiers, nous avons donc déjà organisé une université d'été nationale. Nous avons organisé aussi des festivals ATTAC. Nous avons deux universités d'été, deux festivals ATTAC en 2005 et l'année dernière. Et donc là, nous avons décidé de faire ce qu'on appelle une université du soir, c'est-à-dire de vous proposer une conférence par mois sur le thème justement de la démocratie qui est fortement menacée par la haute finance. Donc cette université ATTAC du soir, son objet c'est d'aider les citoyennes et les citoyens à faire le point sur divers enjeux économiques, environnementaux, financiers, notamment dans leurs relations avec la démocratie. Et donc, je vais passer la parole maintenant à Marie-France qui va vous présenter Suzanne Georges.
Peut-être que je présenterai Suzanne juste avant qu'elle parle.
Si tu veux. Donc, on va commencer par Olivier qui va nous présenter un slam. Et donc, après, Marie-France va présenter Suzanne Georges. Voilà.
Merci. Je te laisse. Bonsoir. Alors. Quand Nicole m'a demandé de faire un slam, je ne savais pas comment aborder la chose. Ce n'est pas facile. Comme thème, c'est complexe. Et j'ai cherché, essayé des trucs. Et puis, j'ai décidé de l'aborder d'un point de vue individuel. Ce que cette société me faisait résonner en moi. En ce moment, c'est la crise. On ne peut pas dire que ça gaze, hein, plutôt que ça écrase ou que ça use. Moi, le gaucher, slameur, hurlu, berlu, pictavien, pour être honnête, je me sens un petit peu perdu dans tout ce tohu-bohu de planète. Bah ouais, chamboulé sur ma boulette. C'est beaucoup pour ma petite tête, ce méga capharnaüm qu'on appelle une vie d'homme moderne. Dans ma tête, dans mon cœur, j'ai mis pas mal de rêves en berne. Pub. Entre les sommations de consommation épileptique, je vous somme de consommer, de croître. Et le chic arrogant des apparatchiks qui me choque mais qui s'en moque. Entre les impératifs économiques, politiques et le chimique irréprochable, ne pas approcher, boum, trop tard. Entre le kaki chronique et l'atomique incontournable. Atomique, surtout ne pas bouger, ne pas péter. Pas péter ? De pas péter à Mururoa, il n'y a qu'un pas, boum, trop tard. Et voilà, comme tous les jours, je suis bombardé de bouillasses cacophoniques. On TV, radio et tutti quanti. Oh, oh. Mais c'est un cocktail poison, une bouillabaisse sans nom. Berk. Pour moi, il y a comme un hic dans cette existence. Un manque de sens, de sensibilité générale. Ces couches grasses de stress et de strass mêlées qui s'accumulent en moi. C'est quoi ce sirop ? L'existence humaine, elle pourrait être tellement plus légère, plus chic, plus poétique que ce cloaque économique apocalyptique. Ça puduque, t'es pas d'ac. Comment je vis ça au quotidien ? Bah moi ça me choque, ça me coupe la chic, ça me sape à l'intérieur, toute cette soupe à la grimace, à la souffrance, des fois ça me met KO, patraque. Il y a une trouille au fond de moi, qui me bloque, je le sais, elle est là. La peur de ne pas avoir de quoi. Cette frousse, elle est alimentée, nourrie, gavée au quotidien par les injonctions, les médias, la pub, la famille, mais aussi et surtout par moi. Et ouais, je suis bien conditionné à me foutre moi-même les pétoches. C'est vraiment trop moche à courir après des chimères de plus en plus vite alors que mes joies les plus grandes et les plus sincères dans ma vie sur cette terre, toutes ces joies ou presque ont été gratuites. Je sais, c'est un gros mot, mais c'est pour ça que je le répète, gratuite. Dans cette opaque époque épique, je me sens verrouillé, cadenassé, entouré de superficiels, enfermé dans des carcans, des étiquettes, des statistiques, des fichiers, catalogues et logiciels. On me juge apte ou inapte, inadapté, neurasthénique, bourré de tics. Résultat, j'ai les boules. J'ai les boules de ne pas correspondre à la norme, à la mode de chez nous. Je ne sais même plus planter de choux. Je les achète sous plastoc. Ça n'a aucun sens, ni aucune sensibilité. J'agis partout, par toc. En fait, en toute conscience, je le sais, c'est vrai, ils ont raison. Il se pourrait que je sois effectivement inapte, complètement inadapté aux us et coutumes du monde de la grande finance, aux relations de pouvoir, de possession, de soumission ou de domination sur l'autre que cela implique dans l'existence. Plic-ploc, il pleut des promos colorés dans ma boîte aux lettres. Comme diraient les têtes raides, c'est une joyeuse mascarade empaquetée que nous livre cette bonne société. Des fois, je me sens comme un pantin, tout désarticulé, gesticulant dans les ficelles d'un système de nœuds qui me dépasse, un sac à nœuds global dans lequel je me fais de la bile. Mais comment puis-je être moi-même sans me défiler ? Sans couper le lien vital, je ne sais que penser. Pensée libérale, cervelle carcérale, me voilà prisonnier, avec 7 autres milliards de prisonniers. Nous sommes emmurés, nourris, gavés, piqués au stress de la conso jusqu'à l'os, jusqu'au cœur de nos cellules qu'on nous arrose. Injection quotidienne de miracles économiques pour voir la vie en dose. On s'accoutume, on s'habitue, même si on sait que ça nous tue. Prisonnier, à travers mes barreaux, je scrute l'horizon. L'horizon gratuit, l'air gratuit. Mais entre cet air totalement free et moi se dresse un mur vertical, infranchissable, le mur de ma propre résignation. Encore une fois, l'auto-persuasion. Ils me veulent mouton, dindon de leur farce. Et si je ne croyais pas en cette prison, s'évanouirait-elle comme une illusion ? C'est très dur, très très dur. Que faire face au fer, face au mental métallisé de ma prison libérale ? En fait, J'avoue, j'ai pas trop d'idées pour changer le monde. Je sais pas, je suis pas un spécialiste. Je sèche. Et croyez-moi, c'est chiant de sécher comme ça dans sa recherche. Mais je sais au moins un truc. C'est que j'en ai ma claque. Des rimes en hic, en hec, en hac, ça suffaque, je suis fuck, mec. Je crois que je vais changer de lexique. Les rimes, des fois, invitent à l'évasion. Pour ça, j'ai un super truc. Comme Barba Papa, vous connaissez ? Une formule magique du style. Personne ne connaît Barba Papa. Ou la hup, Barba Truc. Et hip, je change de forme. Et hop, je change de norme. Je ne corresponds plus aux critères économiques anciens. Je suis un homme nouveau. Je me mets hors phase avec le monde du flouze, ce marais putride rempli de méchants gaz. Je vise un ailleurs, au-delà de la vase. Je cherche la fleur en tout, même si ça peut paraître naze ou fleur rose. Je m'en fous, j'ose la chose. Hors phase avec le monde du flouze et toute sa loose, ou la hup, Barba Truc. Il existe un ailleurs, mais un ailleurs qui serait ici même et maintenant. On y vivrait juste différemment. Tiens, si je prenais le temps d'être humain, entre humains, pas grand-chose, juste 10 secondes. Ce serait 10 secondes, pas de silence, il n'y a pas mort d'homme, non. Ce serait juste 10 secondes de présence intense avec des hommes et des femmes. Pas fini! Voyez, c'est difficile, 10 secondes de présence, hein. À 6, on commence à sentir le vide. Ouais. Vous avez senti cette danse invisible ? Ce petit fil qui nous relie, même si c'est une seconde ? Moi, je trouve ça merveilleux. Moi, ça me remplit. Et en plus, c'est gratuit. On s'en refait un petit ? Non, ok, j'abuse. Ce soir, en mon fort intérieur, pas de place pour le côté sombre, le côté naze. Ce soir, en mon cœur, au milieu de mes frères et de mes sœurs, il y a la paz, la paix. Je suis sûr d'une chose, je ne suis pas ce que j'achète, je suis ce que je donne de ma personne. Mettre du cœur à l'ouvrage, du cœur, c'est urgent. Car malgré tout, au fond de moi, je n'ai jamais été aussi confiant dans le changement. En moi, en tous, pour sortir la tête du sac. Et je dis, pour la paix,
à l'attaque !
Donc je vais présenter Suzanne Georges, que beaucoup connaissent déjà. On peut commencer par citer quelques phrases pour cette présentation d'une de ses nombreuses conférences. On ne promet pas la lune, on ne dit pas qu'on a réponse à tout, mais l'on a des solutions. Notre but est de faire des sociétés décentes et rationnelles où il y ait relativement peu d'inégalités et où à peu près tout le monde ait un emploi, est bien soigné et peut offrir une bonne éducation à ses enfants. Fermez les guillemets. Suzanne Georges est politologue. Elle a lutté contre la mine, milité pour une réforme de l'OMC. Altermondialiste, elle est une des fondatrices d'ATTAC en 1998. Et actuellement, elle est présidente d'honneur de notre association. Elle est auteure de nombreux articles, de nombreux ouvrages, dont le dernier s'intitule « Leur crise, nos solutions », que vous trouverez tout à l'heure au fond de la salle, sur la table de presse, et qu'elle vous signera bien volontiers. En plus de ses écrits, Suzanne Georges a manifesté son engagement dans la presse et dans différentes émissions sur les médias. C'est chaleureusement que nous voulons la remercier d'être parmi nous ce soir, d'enrichir ainsi nos connaissances et notre motivation à militer avec elle pour un autre monde.
Merci. Merci, merci d'être venus, chers amis, chers camarades. Moi, j'espère simplement être à la hauteur d'Olivier. On appelle ça un slam. Un slam en anglais, vous savez, c'est... Mais pour moi, c'était de la poésie et très bien senti. Et j'ai trouvé ça très remarquable. Et je le remercie beaucoup. Si près que ça, bon, d'accord. Mais vous m'avez entendu remercier Olivier, tous, n'est-ce pas? Merci. C'est un plaisir d'être avec vous. Je regrette qu'on ait dû refuser certaines personnes qui voulaient entrer. J'ai essayé de faire du lobbying avec l'homme à l'entrée, mais ça ne servait à rien. Voilà. Alors, je préfère dire une causerie qu'une conférence parce que j'aimerais à la fois donner des informations, mais aussi suivre des questions qui m'ont été envoyées au préalable par attaque, mais je ne vais pas pouvoir le faire parce que je n'ai pas trouvé le moyen de les lier dans un discours fini. Donc, les amis d'attaque vont venir à la fin en disant « tu n'as pas parlé d'eux » et je vais essayer de parler d'eux. OK? Voilà, l'Europe est en pleine crise, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ceci ne date pas d'hier. Ceci a été longtemps en gestation. Et je pense que quand on est confronté à quelque chose qui risque de paralyser pas mal de gens, peut-être pas ceux qui viennent un soir écouter une conférence relativement sérieuse d'attaque, etc., mais qui risque de paralyser beaucoup de gens et qui risque encore pire de les jeter dans les bras de l'extrême droite. Hein. Il vaut mieux remonter dans l'histoire autant qu'on peut et voir mais d'où ça vient. D'une part, ça vient de l'idéologie. J'ai fait un bouquin là-dessus qui s'appelle en anglais, ça s'appelle Hijacking America, prendre l'Amérique en otage, et en français, ça s'appelle je ne sais plus comment, peu importe, c'était un essai pour comprendre comment on avait mis le néolibéralisme en place aux États-Unis. Et bien sûr, comme la pieuvre a beaucoup de tentacules, elle a pu ensuite aller ailleurs à travers beaucoup d'instituts, beaucoup de personnes qui portent cette doctrine. Et c'est une doctrine. Je vais développer l'aspect religieux de la chose tout à l'heure, parce que nous sommes devant un phénomène de fondamentalisme. Donc, ne croyez pas que l'argument rationnel suffise. Ça n'est pas le cas, malheureusement. Nous sommes devant une doctrine qui a sa prêtrise, qui a sa hiérarchie, qui a ses méthodes éprouvées depuis de longues années, et elle... jusqu'ici, elle réussit. J'ai été moi-même absolument abasourdie de la manière dont les néolibéraux, après une crise plus sérieuse, je dis même plus sérieuse que 1929-30, comment les néolibéraux ont réussi à revenir en force, à continuer à obtenir tout ce qu'ils veulent, à avoir des États qui sont comme ça, à faire des courbettes devant, et que c'est comme s'il ne s'était rien passé, et les banques et l'industrie financière n'ont strictement offert aucune contrepartie contre leur dépradation, contre tous les malheurs qu'ils ont causés partout. Pour moi, je pensais, dans ma naïveté, parce que même après de longues années d'études de ce genre de choses et beaucoup de bouquins, on peut encore être naïf, et je confesse que je l'ai été, et je pensais, enfin, on va pouvoir mettre en place des vraies solutions, et ça va être notre tour. Alors, couchez-vous. Hein. Et ben, pas du tout. Pas du tout. Alors, pourquoi ? Cela, je ne vais pas pouvoir répondre pleinement ni parfaitement, j'en suis consciente, je ne sais pas, mais l'histoire depuis une trentaine d'années est l'histoire de la mise en place en béton de ce système. Et quand Olivier parle de prison, poétiquement, mais il ne croit pas si bien dire. Et j'ai été frappée parce que c'est la métaphore que j'ai utilisée dans mon propre dernier livre, Leur crise, nos solutions, où je commence en disant nous sommes tous en prison. On ne l'a pas encore remarqué pour la plupart d'entre nous. Les gardiens sont gentils, ils nous laissent nous promener à l'air libre, on peut voir les films qu'on veut, on peut sortir le soir, mais pour les choses essentielles de notre vie, nous sommes dans une prison qui a quatre murs, auxquels j'ai consacré quatre chapitres. Et le premier chapitre, qui va être le principal ce soir, c'est la prison de la finance. Bon, alors, cette prison, et ces 30 ans de néolibéralisme construits avec beaucoup de soin et beaucoup de succès, ont eu des conséquences extrêmement concrètes. L'idéologie a été mise en place par des gens que j'appelle les Gramsciens de droite. Pour ceux qui ne sont pas philosophes ou qui n'ont pas étudié la science politique, Antonio Gramsci était un communiste italien qui, dans les années 20, a été emprisonné par Mussolini. Il était dans une prison fasciste et il a écrit des cahiers. Et dans ces cahiers, il a développé l'idée de l'hégémonie culturelle. Et en gros, il disait, si vous voulez avoir le pouvoir, vous ne pouvez pas le faire, en tout cas pas très longtemps, en tapant sur les gens, avec la force, avec la violence. Non, il faut entrer dans leur tête. Et ce qu'il faut, et le vrai pouvoir, c'est le pouvoir culturel, c'est le pouvoir de l'esprit. Entrez dans la tête des gens et vous n'avez plus à vous préoccuper de leur cœur, de leurs mains, de leur bulletin de vote, parce que ça vous viendra par surcroît. Et ça s'appelle l'hégémonie culturelle, ça c'est le terme de Gramsci. Et il disait aussi que pour obtenir cette hégémonie culturelle, il fallait faire ce qu'il appelait la longue marche à travers les institutions. Et les institutions, ben c'est quoi ? Ben c'est les médias, c'est la justice, c'est les églises, c'est bien sûr les partis politiques, c'est les syndicats, c'est les entreprises. Enfin bon, je n'ai pas à vous faire toute la liste, vous voyez très bien ce que je veux dire. Mais il faut faire la conquête, petit à petit, de toutes ces institutions-là et les investir, j'allais dire envahir, mais c'est plus les investir, sans que ça se sente trop. Il faut faire ça avec précaution, mais avec sûreté. Et vous le faites avec des arguments intellectuels. Alors là où Gramsci n'a pas développé la chose, mais les néolibéraux l'ont fait, et c'est pour ça que je les appelle les Gramsciens de droite, parce qu'ils ont compris ce que la gauche n'a jamais compris, hélas, ou pas depuis longtemps, c'est que des idées ont des conséquences. Et si vous avez l'appareil d'hégémonie culturelle pour répéter assez souvent les arguments, que vos arguments soient fondés sur des choses réelles ou pas, peu importe, répétez assez souvent, c'est la base de la pédagogie, et vous allez petit à petit faire des convaincus et des convertis. et je reviens à la religion avec les convertis. Et ils ont eu beaucoup de succès à cela. Bon, ça commence aux États-Unis dans les années 50, ça commence vraiment à fleurir dans les années 70, et ça vient en Europe de façon importante avec Margaret Thatcher en 1979, et puis petit à petit, et même hélas, les socialistes français élus en 1980 en ont été infectés, mais petit à petit tous les gouvernements d'Europe ont été infectés par cette maladie. Et cela veut dire que maintenant ça n'est pas attaque qui est à la radio, à la télévision, ou seulement une fois sur 10 ça nous arrive de pouvoir nous exprimer pour une audience plus large, mais c'est très massivement la droite qui s'exprime. Si ça se donne à Poitiers, et sinon, faites 100 km pour le voir, Les Nouveaux Chiens de Garde, un film qui explique cela très, très bien, comment les médias ont été complètement capturés par cette idéologie, et comment, à force de répétition par toujours les mêmes, enfin, ils ont, c'est drôle en plus, c'est ça fait rire jaune, mais ça fait rire. Leurs experts ont répété toujours les mêmes choses. Peu importe que ces choses soient fausses, il y a toujours un grain de vérité et puis une très très grande aura de fausseté. Alors il y a cet investissement idéologique, il y a ce climat qui a été créé petit à petit. Et à l'intérieur de ce climat, il a été possible de faire des réalisations tout à fait concrètes. Depuis 30 ans, en Europe, je ne parle pas de la France là pour le moment, mais en Europe, d'une manière générale, il y a eu ce que les économistes appellent un transfert de la valeur ajoutée. Chaque année, dans l'activité économique, on ajoute de la valeur qui est partagée entre le capital dans notre système et le travail, hein? Et cette production de la valeur est divisée selon ce qu'il faut bien appeler un rapport de force. Parce que au milieu des années 70, la valeur ajoutée allait très majoritairement au travail, c'est-à-dire aux salariés, sous forme de salaire, de bonus, mais assez peu au capital, c'est-à-dire sous forme de dividendes, de rentes ou d'autres argent qu'on peut gagner sans, enfin, en dormant, si vous voulez. C'est la meilleure façon peut-être de le dire. Alors, il y a 30 ans et plus, le travail avait environ 70%. Ça, c'est un chiffre comme ça, ça s'applique à tous les pays d'Europe à plus ou moins près. 70% pour le travail, donc 30% pour le capital. 30 ans après, on est à 60% pour le travail, baisse de 10%, et de manière symétrique, 40% pour le capital. Alors, ça n'est pas une petite chose, parce que chaque année, en Europe, la valeur, la richesse à partager est environ 1,300 milliards de dollars. Tout ça est calculé en dollars parce que ces choses-là sont calculées pour le monde entier. Alors, si vous retirez 10% de cette somme au travail et vous le donnez au capital, et vous faites ça sur de très longues années, vous voyez bien que le capital est en bien meilleure position, d'une part pour privatiser des choses, pour acheter des choses, mais aussi pour payer des lobbyistes, pour pousser ses idées, pour fonder des think tanks, des boîtes à idées, pour mener, et puis pour donner tout simplement beaucoup plus de pouvoir aux riches. Et en même temps, les salariés ou les ouvriers, ceux qui perçoivent des salaires ou des salaires horaires, vous réduisez de temps de 10% par an, ben, cela fait qu'il y a plus de gens qui ne peuvent pas consommer à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient. Quand on ne peut pas consommer, ça veut dire qu'il y a moins d'achats, qu'il y a moins de ventes, qu'il y a moins d'investissement parce qu'il y a surcapacité, que ça peut créer du chômage, ce qui a été le cas, et ça fait que nous sommes maintenant dans un état structurel de surcapacité, mais en même temps de désindustrialisation et de chômage. Donc c'est pour ce genre de raisons que je vais vous dire l'histoire et comment ça se développe sur une très très longue période. Il y a eu en même temps, avec le développement de l'industrie financière et la force du capital qui a attiré de plus en plus d'argent, et avec leurs 10% de plus, les capitalistes avaient plus de quoi investir. Et comme ils ont déjà, les gens qui sont en haut de l'échelle sociale ont en général déjà ce qu'il leur faut. Ils ne consomment pas énormément. Quelqu'un qui est au SMIC, il consomme tout. Il dépense, enfin, normalement, il dépense tout son salaire. Mais quelqu'un qui a 10 SMIC ou 15 SMIC, non. Non, non. Il a des. Et il ne met pas ça sous le matelas non plus. Il investit. Alors, il investit dans quoi? Mais ça, c'est l'histoire des 30 dernières années aussi. Les produits de la finance se sont énormément développés. Et en particulier, il y a eu un transfert d'investissement dans l'économie dite réelle, c'est-à-dire l'économie où les gens travaillent, consomment, agissent dans leur vie quotidienne, à l'économie financière, purement financière, où il n'y a pas de réelle implication humaine. Alors, il y a toujours eu, bien sûr, des actions dans des entreprises. Ça, c'est un produit financier. Et autrefois, on investissait surtout dans des actions, c'est-à-dire on investissait dans l'économie réelle en investissant dans une entreprise, mais qui faisait quelque chose de physique, des voitures ou du pétrole, mais quelque chose de physique. Et on a transféré les investissements vers des produits extrêmement éloignés de l'économie réelle, dont les subprimes par ces derniers temps. Bon, mais je vous expliquerai ça plus tard si on a le temps. Bon. Et ce transfert vers l'économie purement financière a été extrême. Parce que maintenant, en tout cas pour les États-Unis et à peine moins pour l'Europe, c'est plus de 80% de tous les investissements qui vont dans l'économie financière. Et ça fait moins de 20% pour l'économie réelle. Alors, cela fait que nous ne sommes pas en train d'investir dans les industries de demain. On n'investit pas dans les économies vertes, par exemple, comme ce que je préconise dans mon bouquin parmi nos solutions. Il me semble évident qu'il faut investir dans la transition verte vers un autre type d'économie. Ça ne se fait pas. L'argent va dans l'argent. Et on aurait pu croire qu'avec la crise, encore une naïveté de ma part, j'aurais pensé qu'il y ait moins d'argent dans l'économie financière après cette crise où tout de même il y a des gens qui ont perdu beaucoup. Mais ils ont récupéré très très vite. Lisez les rapports sur la richesse dans le monde et vous verrez que bon, ben 2009 c'était pas très bien parce que la richesse des plus riches ça descendait de 15-20%, le nombre des très très riches ça descendait de je sais plus combien de pourcents, mais deux ans après c'était comme si de rien n'était. Et alors on investit maintenant. Vous savez, attaque son nom est très lié à la taxe sur les transactions financières. Et avant la crise, il y avait tous les jours sur les marchés financiers des échanges de monnaie, dollar contre euro, contre livre sterling, etc. Il y avait 3,200 milliards de dollars tous les jours échangés sur les marchés d'échange, comme on dit, des foreign exchange. Maintenant, 3 ans après, c'est 4 000 milliards. C'est miraculeux, c'est un gain de 20%. Ils n'ont rien perdu du tout et le volume a augmenté. Pareil pour les produits dérivés, qui sont extrêmement... Je n'ai pas expliqué les dérivés, pardonnez-moi, mais ça prendrait trop longtemps et puis je ne les comprends pas forcément très bien moi-même. Mais les dérivés, c'est extrêmement éloigné de la vie de tous les jours, croyez-moi. Hein, ce n'est pas l'économie réelle. Mais ce marché-là aussi a explosé. Donc, il y a plus de finances maintenant. Il y a plus de richesses qui est faite directement en échangeant des produits et très rapidement. Et un premier point que je voudrais faire sur la démocratie, qui était la, peut-être la plus grande question d'Attaque Poitiers dans la liste des questions qu'ils m'ont envoyées. Réfléchissez, le marché est rapide. Maintenant, on peut faire des milliers d'opérations sur les échanges de monnaie dans un microseconde. À New York, on installe les ordinateurs le plus près possible des lieux de compensation des achats et des ventes parce qu'on peut gagner un quart de seconde ou même un quart de seconde, c'est beaucoup trop long. Enfin, c'est plutôt un centième ou même peut-être maintenant un millième de seconde. Mais ça fait que les échanges ne sont pas faits par des êtres humains, ils sont faits par des programmes, par des algorithmes. Et ça fait que l'augmentation du trafic et de l'argent littéralement échangé tous les jours a pu monter de 3200 à 4000 en l'espace de 3 ans et en pleine crise, parce que apparemment nous sommes toujours dans une crise, c'est ce qu'on essaie de nous dire. Alors ce transfert de l'économie réelle vers la finance est un autre phénomène du néolibéralisme, parce que c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent comme ça. Ah, si j'investis dans l'industrie, il faut que j'attende que l'entreprise se développe. Il va avoir des problèmes avec ses salariés. Il y aura des grèves. Ça m'emmerde, franchement. Excusez-moi, mais pour parler vulgairement, je n'ai pas envie. Je suis un gros capitaliste. Je n'ai pas de temps à perdre. Alors, on abandonne ce secteur. Et puis, bon, il y a des choses que vous savez déjà. Je pense que pendant toute la décennie des années 90, l'une des questions qu'Attaque m'a posées, c'est quelles sont les grandes étapes du désengagement de l'État par rapport à un pouvoir économique dont l'objectif est de vider la démocratie de sa substance. Mais le désengagement de l'État, c'est quelque chose qui s'est fait, j'ai presque envie de dire, tout naturellement. Parce que pendant pendant 15 ans, entre 85 environ et la fin des années 90, le lobbying des banques et de l'industrie financière, ils ont dépensé 5 milliards de dollars, mais ça valait vraiment la peine parce qu'ils ont obtenu aux États-Unis l'abrogation de pratiquement toutes les lois qui avaient été faites sous Franklin Roosevelt et qui avaient empêché ce développement hypertrophié de la finance. Et les plus importantes des lois qui ont été abrogées, jetées au panier, c'était une qui s'appelait la loi Glass-Steagall, par les noms des hommes qui l'avaient proposée et qui était passée en 1933, et qui empêchait les banques d'investissement et les banques commerciales d'être sous un même toit et dans une même entreprise. La banque commerciale ou la banque de dépôt, c'est là où vous mettez le chèque de votre salaire, où vous écrivez des chèques sur votre compte. Si vous cherchez un prêt, c'est là où vous allez. Mais la banque d'investissement, c'est tout autre chose. Eux s'occupent des fusions et des acquisitions. Ils s'occupent des lancements des actions, de gros paquets d'actions sur le marché, des obligations d'État. C'est de grosses opérations et ils ne sont pas rémunérés de la même manière. La banque de dépôt est rémunérée ou était rémunérée autrefois par la différence entre le taux d'intérêt pour son emprunt. Elle empruntait à, mettons, 2% et puis elle prêtait à 5% à ses clients. Et puis elle vivait de ce spread, comme on dit, de cette différence de 3%. C'était ça, la banque de dépôt. Et la banque d'investissement ne marchait pas comme ça, mais était rémunérée par des honoraires. Et quand on a réussi à abroger cette loi, alors il y a eu des fusions et acquisitions colossales, et les banques se sont mariées et ont commencé à faire des affaires avec l'argent de leurs clients. Il n'y avait plus de distinction du tout entre la banque de dépôt et la banque d'investissement. Alors, l'argent des clients, le vôtre, hein, allait dans des achats qui étaient faits par le côté investissement de la même banque, et toutes les banques européennes ont suivi ce modèle. Et l'Europe, la Commission européenne, les a encouragés à suivre cette voie, et au début des années 80, c'est pas une surprise, nous sommes en plein néolibéralisme en Europe aussi, et la Commission passe une loi qui s'appelle, et j'oublie toujours, elle s'appelle le Financial Services quelque chose Directive, mais enfin c'est sur les services financiers. Et à partir des années 80, l'Europe encourage les banques à devenir le plus possible comme les banques aux États-Unis. Et les banques européennes n'ont pas eu à attendre, et elles étaient ravies parce que ça leur permettait de faire beaucoup plus d'affaires et de copier, mais aussi de s'imbriquer dans la finance américaine qui avait été auparavant assez séparée. Les Européens investissaient en Europe, les Américains en Amérique, mais la fusion entre ces deux systèmes était relativement limitée. Mais à partir des années 80, plus du tout. Alors, il y a eu ce changement dans le statut des banques, et dans ces abrogations de lois, il y a eu aussi une autre loi très importante qui a été virée et qui contrôlait la spéculation sur les marchés alimentaires. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, 3 ans maintenant, il y avait beaucoup d'émeutes de la faim dans le monde. Pourquoi ? Mais parce que ceux qui avaient investi énormément dans les subprimes, et ça commençait à sentir le roussi. Et alors, ils ont retiré leur argent de ce secteur-là et ils sont allés massivement sur les denrées, sur le blé, le maïs, le soja, le riz, sans aucune intention de prendre livraison de ces denrées, hein, mais simplement en achetant des contrats, en disant « je pourrais vendre ça plus tard, après, et beaucoup plus cher ». Et c'était vrai, parce que les prix étaient extraordinairement volatiles. En une journée, je cite ça dans mon livre parce que ça m'avait frappé, en une journée au mois de mars 2008, le prix du blé a augmenté de 30%. C'est pas l'argent, c'est pas la quantité de blé disponible, ça n'a rien à voir, ou très peu à voir. Ça n'est pas des gens qui fabriquent des cookies ou des petits pains. C'était ça autrefois le marché, c'était entre les agriculteurs et les gens qui fabriquaient des cookies. Mais là, tout d'un coup, il y avait 20 fois plus d'argent sur ces marchés que 3 ans auparavant, et c'est comme ça que le prix pouvait monter. Le tragique dans l'histoire, c'est que Évidemment, pour des gens qui étaient à des milliers de kilomètres de là, le prix américain est le prix d'exportation. Et si leur pays était dépendant du blé américain pour faire des chapatis ou du maïs pour faire des enchiladas. Voilà. Au Mexique, c'est eux qui payaient. Et pour des gens qui dépensent déjà 60-70% de tout ce qu'ils ont pour la nourriture, ça fait une différence et puis ça mène à des émeutes de la faim. Bon, alors, abrogation des lois à travers le lobbying, libérer la finance, le marché c'est ce qu'il fait. Ça, c'est l'un des grands slogans du néolibéralisme, le marché c'est ce qu'il fait, le marché s'autorégule. Et il va faire pour le mieux et ne vous occupez pas de ce qu'il fait parce qu'il va arriver au meilleur résultat pour tout le monde et vous n'avez pas à intervenir avec vos régulations là-dessus. Et tout l'appareil régulateur a été démantelé, plus ou moins. Ceci pour vous dire que tout cela est le travail de longues années et c'est un travail de longue haleine. Et puis, on peut citer aussi pour l'Europe le traité de Maastricht qui, pour la première fois, invente des chiffres. Ça vient de l'Allemagne qui dit « Votre déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du PNB et votre dette ne doit pas dépasser 60% de votre PNB. » Ce sont des chiffres complètement arbitraires. Pourquoi pas 2,5%, pourquoi pas 4%, pourquoi pas 55%, aucune raison, c'est pris dans le ciel des idées. Mais c'est devenu maintenant, et on reste dur comme fer sur ces critères que personne ne respectait pendant longtemps. Et ça, c'est un exemple, je crois, aussi du succès de ce néolibéralisme. Alors, combien d'entre vous, c'est mon petit sondage privé et personnel, ont pu dire ou répéter à quelqu'un ou croire quelqu'un qui a dit « Mais les États ont dépensé beaucoup trop. Le budget d'une famille, c'est la même chose que le budget d'un État et on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. » Et donc, il faut arrêter de dépenser. Les États ont dépensé trop et nous vivons au-dessus de nos moyens. Alors, maintenant, on est dans le confessionnal. Alors, combien ont pu croire à quelque chose de ce genre? Une dame très courageuse, là, qui lève la main. Il y a d'autres courageux. Bon, alors, mais ça ne m'étonne pas du tout parce qu'on vous sérine ça tous les jours. Mais la dette d'un État n'a rien à voir avec la dette d'une famille. On emprunte, et si on emprunte pour des raisons productives, si on investit dans l'éducation, dans la recherche, dans la santé des gens, dans la productivité, il n'y a aucun problème. Les États-Unis n'ont pas été désendettés, je crois, depuis 1837. Ils viennent de perdre avant nous leur triple A, ça va très bien. Ils continuent à rembourser leurs dettes. Peut-être qu'eux vont faire mieux que nous parce qu'ils peuvent créer de l'inflation. Ils ne l'ont pas encore fait, mais ils sont endettés beaucoup plus que la France, beaucoup plus que les pays européens. Et c'est une sorte de sagesse induite par le traité de Maastricht qui dit 60% c'est la limite de la dette. Il y a un très bon économiste, moi je ne suis pas économiste, mais il y a un bon économiste américain qui dit la dette commence à être un problème vers 90% du PNB parce que là, les paiements que vous devez faire chaque année sur le principal sur les bons du trésor, ça commence à être un peu compliqué. Mais l'Italie, qui est maintenant à 3B+, je crois, a été dégradée de deux niveaux en même temps que nous, l'Italie n'a aucun problème pour payer sa dette. L'Espagne a été à 50% et maintenant est à beaucoup plus. Mais pourquoi les pays ont plus de dettes qu'avant la crise? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinairement miraculeux que tout d'un coup, la dette de tout le monde augmente et qu'on dise « austérité, la solution ». Non, pas du tout. C'est parce que, d'une part, les États ont dépensé beaucoup pour renflouer les banques. Hein? Renflouer les banques. Je fais une pause là. Je vais vous donner quelques chiffres. On va vous donner quelques chiffres. Parce que c'est extraordinairement intéressant, si vous êtes un mordu comme moi, de voir. Au début, on dit on a dépensé à peu près 5 000 milliards pour renflouer les banques. Puis on commence à corriger ce chiffre. Et on dit non, c'est quand même plus que ça. Et puis la Banque d'Angleterre, qui a des gens plutôt costauds, dit pour les Anglais, les Européens et les Américains, c'est 14 000 milliards. Et ça, c'était annoncé fin 2009. Et puis, l'été dernier, la Réserve fédérale américaine est obligée de publier un rapport parce qu'il y a un très courageux sénateur indépendant qui exige, et il a le droit de le faire, que la Réserve fédérale fasse un audit de tous ses paiements aux banques et qu'il le publie. Et le bureau de la accountability du gouvernement, de la transparence du gouvernement, publie ce rapport au mois de juillet dernier. Et là, on apprend que la Réserve fédérale, rien que la Réserve fédérale, a dépensé 16 000 milliards. Et pas seulement pour les Américains. Il y a 2 000 milliards là-dedans pour les Européens, dont 179 milliards pour la BNP Paribas, 129 pour la Société Générale, j'oublie combien, 150 et quelques pour Dexia, et puis énormément pour les Anglais, et puis pour le Commerzbank, pour les d'autres banques allemandes. Mais pourquoi? Mais parce que les Américains étaient bleus de peur, parce que ces banques-là avaient été très imbriquées dans le système américain. Et si BNP Paribas faisait faillite, ben ça allait causer de très gros dégâts aux États-Unis. Alors rien que la Réserve fédérale, nous sommes à 16 000 milliards. Et puis encore plus récemment, en décembre, il y a un type, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai lu son rapport qui fait une trentaine de pages. Et lui dit, alors de nouveau, nous sommes dans le tout le monde, dans l'anglais, les Européens et les Américains, et lui dit 29 000 milliards qui a été dépensé pour sauver les banques. Et il inclut, mais il inclut, le chiffre est peut-être gonflé parce qu'il met ce que, par exemple, la Banque Centrale Européenne a emprunté à la Réserve fédérale. Bon, c'est peut-être gonflé, mais vous voyez l'ordre de grandeur. C'est quand même énorme. Alors, tout ça se passe sur un moment assez concentré, hein, 2008, 2009, 2010 maximum. Donc, les États ont dépensé énormément. Il y a eu une chute d'activité. Il fallait tout de même que les États compensent cette chute d'activité. Plus de chômeurs, il fallait tout de même payer des allocations, il fallait payer toutes sortes de choses. Et puis, ben, comment on couvre quand on a des dépenses qu'on ne prévoyait pas et quand il faut tout d'un coup faire face à des frais comme ça, ben on emprunte. Quand on est un État, on emprunte. Et c'est ce qu'ont fait nos États. Mais ne vous laissez pas raconter que c'est parce que les Français vivaient au-dessus de leurs moyens. Absolument pas. Ce sont les banques, une fois de plus, qui vivaient au-dessus de leurs moyens et qui n'ont absolument jamais rien payé en contrepartie. Il faut que je m'accélère un peu parce que je vais essayer d'accélérer un peu. Alors, pour mémoire, l'attaque contre la démocratie, elle n'est pas uniquement financière. Quand les Français ont voté à 54% pour le non en 2005. On n'en a tenu aucun compte. On a fait en très peu de temps un traité de Lisbonne qui en est la copie conforme pour le traité qui avait été rejeté par les Français et les Hollandais. Le traité de Lisbonne, ne me croyez pas moi, croyez M. Giscard d'Estaing, qui était le principal rédacteur du traité constitutionnel et qui a dit du traité de Lisbonne, je cite, « Ils ont fait des changements cosmétiques pour que ce soit plus facile à avaler. » Donc, c'est exactement le même traité. Et nous vivons sous ce traité, et c'est le traité constitutionnel que nous avons rejeté, que les Hollandais ont rejeté, et c'est le traité de Lisbonne que les Irlandais ont rejeté. Donc, trois peuples souverains, c'est comme si rien ne s'était passé, et nous vivons sous ce texte. Bon, alors, il y a eu, bien sûr, avec tout ce fond que j'ai essayé de vous donner, il y a eu, bien sûr, des moments qui ont déclenché. Il y a eu des gâchettes hein, qui ont déclenché la crise dans laquelle nous sommes. C'est bien sûr la Grèce, c'est bien sûr le fait que le traité ne nous permet pas d'avoir une harmonisation fiscale ou sociale. On ne peut pas aller vers le haut, on ne peut que se faire concurrence pour aller de plus en plus vers le bas en termes sociaux ou en termes fiscaux. Mais l'Europe, vous savez, on est la plus grosse économie du monde. On est 500 millions de consommateurs. On est riche comparé aux Chinois, aux Indiens, enfin des pays où les gens sont plus nombreux. Mais nous sommes plus riches. Nous sommes la plus grosse économie du monde. Il n'y a aucune raison, aucune, que la Grèce déclenche un tel psychodrame dans toute l'Europe qui n'a cessé de croître et, si j'ose dire, embellir. La Grèce représente entre 2,5 et 3 % de l'économie européenne. C'est rien, c'est peanuts. Alors, c'est vrai que la Grèce a un budget militaire démesuré. C'est vrai qu'elle ne taxe pas l'Église, qui est le plus gros propriétaire du pays. C'est vrai que les riches grecs ne paient pas d'impôts, que leur argent est à Chypre ou ailleurs. Tout ça est vrai. Mais au lieu de casser tout un développement européen, on décide qu'on va punir la Grèce. Moi, j'appelle ça de la religion et pas de l'économie. Et je voudrais développer un petit peu cette idée de religion. Nous savons ce qu'il faut faire. Si on veut sortir de la crise européenne, on sait très bien ce qu'il faut faire. Quand je dis « on », je veux dire un très large spectre de gens extrêmement respectables. Je ne dis pas que Attac ne soit pas respectable, mais il y a des gens beaucoup plus connus, dans le genre Joe Stiglitz, dans le genre Paul Krugman, autre prix Nobel, le premier économiste du Fonds monétaire international, un Français qui s'appelle Olivier Blanchard. Il y a un nombre de gens incroyables qui sont des Keynesiens, c'est-à-dire qui suivent la doctrine de John Maynard Keynes, qui était le grand économiste des années 20 et 30, et c'est ma persuasion aussi, mais et d'innombrables ONG, et tous ont dit la même chose. On dit, il est évident qu'il nous faut une banque centrale européenne normale. Nous avons une banque centrale qui ne peut pas statutairement prêter aux États. C'est dingue, ça. C'est pas possible. Vous savez comment ça fonctionne? Les banques empruntent à la Banque Centrale Européenne. Les banques privées empruntent à 1% ou moins et reprêtent, les banques privées reprêtent aux États au prix du marché. C'est-à-dire à 3%, à 7% pour l'Italie maintenant. J'ai regardé les taux de change, 28% pour la Grèce. C'est-à-dire, c'est pas possible. Enfin, mais est-ce qu'il faut avoir du génie financier pour gagner de l'argent quand vous pouvez emprunter à 1% et reprêter à 4 ou 5? Quand même pas. Alors, j'aimerais encore sondage, si ça ne vous ennuie pas trop. Combien ne savaient pas avant ce soir que la Banque Centrale Européenne ne prêtait qu'aux banques et pas aux États directement? Ce n'est pas la majorité, mais c'est beaucoup. Et je crois que... Et puis, vous êtes mieux informés que la moyenne des Français. Non, mais forcément, vous êtes là, ça prouve que vous êtes mieux informés, que vous vous intéressez à la... au monde autour de vous. Alors imaginez le nombre de personnes qui sont complètement paumées devant cette crise, qui ne comprennent pas pourquoi ça nous frappe et qui sont pas en condition de protester parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme. Alors ça, c'est l'un des mécanismes. Il faut une banque centrale normale. Autre attribut d'une banque centrale normale, c'est que on a des bons du trésor du pays, pas de la Grèce, de la Slovaquie, de la Slovénie et de l'Allemagne, de l'Europe. Mais ça aussi, on ne pouvait pas le faire et on ne peut toujours pas le faire. Alors, on a vendu, la Grèce a vendu ses bons, les Portugais, les Italiens, tout le monde a vendu son papier, et les marchés, les fameux marchés, croyaient apparemment que la Grèce et l'Allemagne, c'était la même chose. Ils n'avaient pas vraiment regardé de très près, mais ils se sont dit, bon, ben, c'est l'Europe, c'est l'euro, un bon grec, un bon allemand, un bon français, c'est du pareil au même, j'en prends un peu ici, et puis vous m'en mettrez encore une louche, madame, et puis voilà. Et alors, mais ces génies financiers, dont nos BNP Paribas, Société Générale et autres crédits agricoles, mais c'est pareil pour les Allemands, on en a acheté beaucoup, du portugais, du grec et du... Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit, c'est pas la même chose que l'Allemagne. Et c'est la panique. Et maintenant, c'est la panique. Mais au lieu de dire, mais la solution, écoutez, c'est très simple, la Grèce, c'est 3% maximum de l'économie européenne. On fait des bons du trésor unifiés. Tous vos bons du trésor sont maintenant européens. Calmez-vous, vous serez remboursés normalement au taux d'intérêt où vous les avez pris. Et puis, on fait un pool et on fait des discussions entre Européens, et bien sûr l'Allemagne doit payer plus que la Grèce, mais c'est le prix pour sauver l'Europe et pour faire quelque chose qui se tient, parce que ça ne tient pas quand vous avez une monnaie commune mais le pays individuellement n'a pas la capacité de se sortir de sa dette quand celle-ci est excessive. D'abord, il n'y a pas eu de mécanisme pour dire « arrêtez là, ça suffit de s'endetter ». Mais d'autre part, si la Grèce retournait aux drachmes, elle pourrait imprimer autant de drachmes qu'elle veut et puis essayer de rembourser en drachmes, mais elle n'a pas cette capacité. On ne peut pas sortir de cette dette par l'inflation. Alors c'était ça les solutions, les bons du trésor européen, une banque centrale normale, et puis il y en a bien d'autres, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez suivi comme moi le nombre de sommets européens, et chaque fois c'est la der des der, et puis demain matin ça va être parfait, et tout le monde va comprendre que nous sommes des gens sérieux, et qu'il n'y aura plus de problème. Et puis patatras, les marchés sont très contents pendant au maximum 48 heures. Et puis de nouveau, c'est la panique. Et puis il faut recommencer. Et je ne sais plus quand est le prochain, mais c'est dans très peu de temps. Encore un sommet européen. Alors c'est pour ça, moi j'appelle ça de la religion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent quelles sont exactement les solutions mécaniques, économiques, si vous voulez. On sait comment faire. Mais on ne les applique pas parce que nous ne parlons pas d'économie ici. Nous parlons religion. Et nous parlons de religion, de damnation et d'enfer aussi. Il faut punir. Il faut qu'on souffre. Et comment faire souffrir, mais aussi comment faire payer les gens qui ne sont responsables de rien, ben c'est par l'austérité. Alors c'est ça l'argument, vous avez vécu au-dessus de vos moyens et maintenant vous allez le payer. Toutes vos cigales, vous allez payer et les fourmis ne vont pas vous aider. Et je crois que c'est ça aussi un nœud du problème. Donc au lieu de prendre la Grèce en main et de dire, bon, maintenant vous êtes dans une union et vous allez baisser votre budget militaire et vous allez taxer l'Église et on va faire ce qu'il faut pour rectifier votre problème et entre-temps, on va empêcher l'Europe de se désintégrer à cause de vos malfaisances. On ne fait pas ça. On laisse pourrir la situation et c'est pour ça, moi, je crains le pire. Je ne crains pas le... Je crains l'inadvertance et je crains cet esprit puritain de l'Allemagne qui, et puis peut-être d'autres, mais la France suit comme le petit caniche aussi, qui peut nous faire désintégrer quelque chose qui n'est, Dieu sait, pas parfait. Et Dieu sait si je n'aime pas l'Europe telle qu'elle est, mais je crois que c'est une très grande réalisation. Et si on reste dans ce discours religieux, on ne peut pas avoir la démocratie en même temps. La démocratie est un processus lent, les marchés sont rapides, la démocratie ça prend du temps, les marchés ça prend pas de temps, ça réagit tout de suite. Nous sommes dans un système où un État séculier, un État démocratique qui prend son temps, qui inclut les gens, qui dit il faut discuter, votons sur ceci, prenons un référendum sur cela. Non, c'est beaucoup trop lent pour les marchés. Les marchés, ça veut de l'action tout de suite. Et comme on suit les marchés comme, qui sont sacrés, apparemment, et qui exigent ceci et cela, c'est très intéressant, le vocabulaire. Il faut rassurer les marchés. Il faut mettre quelque chose sur l'autel. Hein. Il faut brûler l'offrande. Il faut mettre encore quelques services publics. Il faut mettre encore quelques retraites, quelques salaires. Je crois que c'est révélateur. Hein.
Il
faut faire des sacrifices. Des sacrifices aux dieux qui sont les marchés. Non, mais je pense qu'il nous faut des anthropologues autant que des économistes et peut-être des théologiens. Non, mais je plaisante pas. Vraiment, je crois qu'on a besoin de gens qui nous aident à dire comment faire face à ce vocabulaire, comment faire face à cette façon de concevoir le monde, à concevoir nos économies et nos existences, nos vies concrètes, ce qu'on exige de chacun et naturellement de ceux qui sont le moins responsables de la crise, c'est à eux de donner le plus. Ceux qui sont responsables n'ont rien donné du tout, mais parce qu'ils sont dans ce cercle magique des marchés, ce sont les grands prêtres, ils savent plus que nous, ils sont l'intermédiaire entre l'au-delà et nous-mêmes. Voilà, moi je vais pas, j'ai encore beaucoup de choses que je peux dire, mais je ne veux pas vous embêter et je veux que vous puissiez poser des questions dire vos préoccupations. Je crois que j'ai j'espère à peu près. Bon, alors, comment faire? Ça, c'est évidemment, c'est une question importante. Comment faire, étant donné que nous sommes face à ces situations-là où petit à petit, on nous vole notre démocratie. Maintenant, on a des types, des banques à la tête de la Grèce, à la tête de l'Italie, à la tête de la Banque centrale. C'est tout Goldman Sachs ou Lehman Brothers. On prend même ceux qui ont fait faillite, comme Lehman Brothers. Rien ne réussit comme l'échec. Hein. C'est ce qu'on voit avec les banques. Non, mais on voit avec les banques des gens qui ont complètement fait un... Ils ont... Bon, encore, moi j'ai déjà dit emmerder, mais je veux dire, ils ont fait un merdier. Ils sont incompétents. Ou ils ne sont pas incompétents pour faire des profits immédiats. Non, ça, ils le font très bien. Mais pour faire quelque chose qui ressemble à une économie et qui se poursuit, mais ces gens-là n'ont été obligés de rendre compte de rien. Alors, voilà où nous en sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire contre cela ? Ben, la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'il faut faire des alliances. Il faut faire des coalitions de citoyennes tellement fortes et tellement bien informées qu'ils sont en mesure de dire non, d'abord à leur gouvernement, et un non circonstancié, un non pour les raisons suivantes, 1, 2, 3, 4, 5, et puis qu'ils sont capables d'agir ensemble. Parce qu'aucun d'entre nous, quelle que soit votre origine, votre métier, votre milieu social, aucun d'entre nous ne peut gagner seul. Les enseignants ne peuvent pas gagner seuls, les paysans non plus, les syndiqués non plus, les écologistes non plus, je pourrais continuer. On a besoin les uns des autres parce que la coalition, cette religion doctrinale est tellement forte maintenant et a occupé tellement de postes clés que si nous ne sommes pas capables de nous unir, c'est très simple, on perd. Et on perd pour de longues années parce que cette austérité, c'est le sacrifice permanent. C'est les autels des dieux qu'il faudrait faire brûler nos existences dessus pendant who knows, qui sait. Très longtemps. Alors, ce que, je crois, Attac essaie de faire à son niveau, mais que je vous supplie tous de réfléchir dans ce sens, c'est que vous devez être des faiseurs, faiseuses d'alliances. Vous devez essayer d'amener d'autres personnes dans le cercle, dans ceux qui comprennent, l'ensemble des personnes qui comprennent les mécanismes et qui voient que nous sommes, enfin, si Marx était là, il dirait, mais c'est très simple, c'est la lutte des classes. Et c'est vrai qu'on nous fait payer, on l'a déjà fait en 2008, c'est nous qui avons payé, et maintenant il faut qu'on paye de nouveau. Mais avec ce bouquet qu'on nous dit, mais c'est parce que vous avez vécu tellement bien que maintenant vous devez faire des sacrifices. C'est tellement énorme que on reste sans voix et je vais rester sans voix et je vous donne l'invitation en vous remerciant beaucoup de dire ce que vous pensez, de poser des questions, etc. Merci.
Suzanne,
c'est toi qui prends des...
Oui, je vais profiter de ma position. Suzanne, vous avez parlé d'une prison à quatre murs en évoquant la finance en premier pour notre compréhension. Le deuxième mur serait les politiques du moment au pouvoir, au service de la finance, c'est ça ?
Excuse-moi, j'ai
pas... Alors, je me suis peut-être pas bien exprimée. Au départ,
tu
vous
avez des questions.
Oui, oui. Non. Je parle du terme utilisé par notre poète et que tu as repris, la prison à quatre murs, la prison dans laquelle nous nous trouvons. Donc, ça, c'est la finance.
Oui, finance, les inégalités croissantes, la prison des inégalités qui nous met socialement aussi en prison, pas pour nous en France, ou en tout cas pas encore, mais la prison du manque d'accès aux choses vraiment de base de la vie, qui sont la nourriture et l'eau. Et la quatrième, c'est le mur écologique que je n'ai pas pu aborder du tout. Mais nous allons très vite aussi vers des catastrophes écologiques, vers des événements climatiques qui seront dits exceptionnels, mais qui vont devenir de plus en plus communs et qui vont toucher de plus en plus de gens, surtout dans les pays les plus vulnérables, mais nous aussi. Donc ça, c'est les quatre murs de la prison. Oui.
Bien, nous avions demandé une subvention à la Commission européenne pour la location de la salle et puis l'université d'attaque, et elle nous a été refusée. C'est pas assez fort ? Bon, alors je recommence. Nous avions demandé une subvention à la Commission européenne pour organiser le festival ATTAC, mais elle nous a été refusée. Donc on vous propose de participer. On nous mettra une petite boîte en haut, si vous voulez nous donner quelques euros ou plus.
Moi, je vous invite aussi, parce que la politique, elle n'est pas gratuite. Hein. Elle n'est pas gratuite et c'est une belle salle. Et je pense que nous pouvons tous contribuer à ce que ce genre de soirée puisse vivre et continuer.
Bien. La deuxième chose, on regrette vraiment beaucoup d'avoir vu trop petit. En parlant avec Suzanne à table avant qu'elle vienne, on dit bon, j'espère, on espérait qu'il y aurait du monde. Et, bon, là, on était vraiment comblés. Il y a Catherine Dudal qui voulait faire une petite information. Est-ce qu'elle est là, Catherine Dudal?
Oui, deux informations. La première, c'est que vendredi prochain à Châtellerault, ça a été dit tout à l'heure, mais il y a la conférence de Paul Ariès qui risque d'être intéressante et à laquelle on vous invite tous. La deuxième chose, avant la fin de la trêve hivernale, on a décidé de créer un DAL sur Poitiers, donc qui deviendra le DAL 86. Il y aura une réunion d'information publique le 4 février, à laquelle vous êtes tous conviés. On a besoin de votre participation. C'est une question d'urgence. Donc, on compte sur vous.
Explique ce que c'est que le DAL.
Alors le DAL, c'est le droit au logement, donc ce sera une association. La réunion publique, c'est le 4 février, hein, c'est bien ça. Le 4 février à 15h, c'est ça ? À 15h, et ce sera Saltimbo à la Maison du Peuple.
Bien, dans les infos, vous avez une table avec des livres d'attaque et un libraire qui expose aussi des livres là-haut à vendre. Voilà, donc maintenant la parole est à la salle.
Oui, en fait, j'ai beaucoup entendu le mot libéralisme ce soir et je ne crois pas avoir entendu le mot de capitalisme. J'ai pas entendu salariat, j'ai pas entendu valeur, enfin, je me suis trompé. Mais j'ai surtout entendu en fait te parler du néolibéralisme et de la financiarisation comme une cause en fait de nos malheurs actuels, alors que si on fait une petite analyse, en fait, il ne s'agit que d'une conséquence d'une conséquence d'une étape en fait du capitalisme. Il faut savoir que l'économie réelle avait déjà connu en fait des problèmes avant ces politiques de néolibéralisme. Et que la production en fait et que les profits étaient déjà un petit peu en baisse quoi. Je vais me faire un peu quoi, l'avocat du diable. Hein. Moi, je suis pas du tout pour la financiarisation de l'économie. Je suis anticapitaliste. Mais il faut bien voir que c'est quand même la financiarisation de l'économie qui a permis depuis 30 ans effectivement de maintenir le capitalisme en l'état et y compris de maintenir nos salaires. Voilà. je crois qu'il faut revenir aussi à une contradiction essentielle.
Salaire.
Ouais. Ça, oui, il a maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y avait pas eu cette financiarisation, le capitalisme se serait tout simplement cassé la gueule. Et donc, se cassant la gueule, les salaires, donc les emplois, se seraient aussi casser la gueule. Donc, ça a été un recours du capitalisme à une époque, tout comme le capitalisme a eu d'autres recours à d'autres époques. Et on ne peut pas comprendre le capitalisme si on ne comprend pas la baisse tendancielle du taux de profit, la contradiction intrinsèque du capitalisme entre la valorisation et le travail. Le travail, il faut savoir que le capitalisme, donc, c'est une prise de plus-value et que le capital ne se réalise que sur le travail humain. Il faut le savoir. La financiarisation n'est qu'une anticipation de gains sur ce travail humain à venir, quoi. Donc le problème, c'est que le capitalisme a une contradiction essentielle, c'est qu'il est fondé sur la concurrence et donc sur l'achat croissant de biens, donc qui permettent de développer la productivité, notamment des machines. Or, ces 30 dernières années se sont développées ce qu'on appelle les nouvelles technologies. Il y avait déjà eu quoi, d'autres phases nouvelles, effectivement, de développement des technologies. On a eu l'électricité, on a eu le pétrole, puis la voiture, etc. Et le problème, c'est qu'avec ce développement de la technologie, le travail humain devient de plus en plus superficiel. En tout cas, plus la productivité avance, plus les machines augmentent, effectivement, moins il y a besoin, et ça c'est très très quoi, paradoxal, de travail humain. Voilà. Et donc là, on est arrivé à un tel quoi, dépassement de l'avancée quoi, technologique sur le travail humain qu'il a fallu trouver une solution. Et cette solution, ça a été la financiarisation. Donc, oui, excusez-moi. Bon, alors je vais conclure parce que pour moi, la solution, elle n'est pas le fait de taxer le capital, elle est le fait d'abolir le capitalisme et des rapports de salariat, de profit, de monétarisation entre les humains. Bon. Elle est le fait de redonner la décision réelle, non pas au capital, qu'il soit d'État ou qu'il soit privé, parce qu'on sait ce qu'a donné le keynésianisme dont vous nous avez parlé, ça ne marche pas non plus. Hein. Donc, il faut redonner la décision réelle aux gens. Voilà.
Bon, mais je vous remercie de mettre tout de suite sur la table une objection que l'on entend très souvent. Il faut abolir le capitalisme. Donnez-moi le pouvoir. Je le fais demain matin, j'essaie de le faire, seulement je ne suis pas seule ici et je ne suis surtout pas seule au monde. Alors, je crois qu'il faut, avant d'aller là, et vous avez une très bonne analyse, je ne suis pas du tout sûre que c'est ainsi que nos salaires ont été maintenus, parce que à transférer les capitaux aux finances et pas de prendre au travail et de transférer à la finance, c'est ce qui a permis au capital d'avoir des exigences vraiment comme jamais il n'avait eu dans les années 50 et 60 et même 70. Hein. C'est-à-dire, je veux 15%, je veux des résultats. Et l'entreprise était plus du tout pour produire et pour payer ses salaires, mais pour la valeur pour l'actionnaire. C'était le mantra. C'est devenu, il faut produire de la valeur pour l'actionnaire. Et c'était tout de suite. C'était pas du tout, une industrie n'était pas du tout quelque chose qui devait se développer sur le long terme. C'était quelque chose pour payer ceux qui avaient investi dedans, c'est-à-dire les capitalistes qui sont devenus infiniment plus avides. Hein, comment ? Ben, bien sûr, mais je n'ai pas arrêté de parler de la manière dont ça avait... on avait laissé faire et comment ils ont fait. Je crois que c'est intéressant et important de comprendre ça. Et il n'y a pas que le travail humain. Marx a dit, regardez la critique du programme de Gotha, parce que si on veut faire des ferrailler avec Marx, je l'ai lu aussi, c'est la nature. Et là, on bouffe de plus en plus. Mais quand je parle des sacrifices sur l'autel hein, de cette religion-là, qu'est-ce que c'est d'autre que de faire de faire bouffer le capital? En gros, il faut qu'il mange, Alors, il y a encore des choses à privatiser. Il y a encore des services qui sont dans le domaine public. On peut leur donner ça, et puis ça, et puis ça. Mais ça sera un processus sans fin. Alors, moi, je veux bien abolir le capitalisme. Dites-moi comment. J'encourage aussi, ben, dites-moi aussi comment, j'encourage aussi le changement de l'entreprise. Je pense qu'il faut socialiser. Bon, le bouquin, il y a 90 pages sur les solutions. Socialiser les banques. Toutes les banques qui ont reçu de l'argent public doivent être totalement ou partiellement socialisées. Je dis ça en préférence à nationaliser, parce que je pense que l'État n'est pas le seul partenaire, mais que c'est aussi les clients, c'est aussi les salariés, c'est aussi tous ceux qui, enfin, le public, quoi, les citoyens. Et il faut que les banques deviennent ce qu'elles auraient dû rester, c'est-à-dire des banques. Ben, il y en a maintenant des exemples comme ça. Il y a la banque éthique en Italie qui vit sur son spread, qui vit sur la différence entre l'emprunt et le prêt, et qui n'investit pas dans des produits farfelus comme des subprimes et d'autres dérivés. Et je crois que l'on peut, mais franchement, à moins d'avoir une recette qui n'est pas le grand soir et que je considère, pour des raisons qui seraient trop longues à développer, une vue de l'esprit et un chimère, et ben, alors il faut me donner l'adresse, il faut me dire qui est le tsar, il faut me donner l'adresse du palais d'hiver, parce que je ne sais pas où il faut aller. J'ai vu que Wall Street, ça ne lui faisait rien du tout. Alors, c'est où le nexus? C'est où?
Mais c'est nous. C'est ni les palais d'hiver, quoi, ni le...
Mais nous.
Voilà, c'est nous, mais... qui reprenons la décision réelle.
Le capitalisme, en réalité, c'est la domination en termes de décision. L'accumulation, quoi, capitaliste, le capital, c'est la décision politique. Puisque, effectivement, si on décide d'après l'argent que l'on a, voilà, on décide réellement sur les conditions, quoi, matérielles, en fonction du capital que l'on a. Le capitalisme n'est qu'une forme de domination sociale et de rapport de domination sociale, quoi. Donc effectivement, si, c'est cette domination-là qu'il faut briser, et cette domination-là, on ne pourra pas la briser sans reprendre réellement les moyens matériels,
voilà,
de production.
Bon.
Et
ben,
sans abolir les rapports étatiques, les rapports de domination, les rapports, quoi, capitalistes. Et ça, je suis désolé, mais ça passe par une expropriation, ça passe par une réappropriation, ça passe par une révolution. Il n'y a pas d'autre, moi je ne vois pas d'autre moyen.
Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je n'ai pas dire le contraire. Qui voudrait exprimer quelque chose?
Qu'est-ce que vous pensez du rôle de nos grandes écoles?
Excusez-moi, mais je ne vois pas qui parle. Ah, pardon.
Pardon.
Voilà.
Qu'est-ce que vous pensez du rôle de nos grandes écoles dans la propagation du virus
du néolibéralisme? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment étudié les grandes écoles. Je crois que Bourdieu est le meilleur guide là-dessus. Les héritiers, il décrit très bien, et plus récemment, mais de façon moins lumineuse à mon sens, les Pinson-Charlot, qui sont de bons sociologues, hein. Ils ont parlé de cette caste d'héritiers et de la manière sociale qui leur permet de continuer à garder le pouvoir dans les mêmes sphères. Et ça marche de la même manière aux États-Unis. J'ai vécu dans ces milieux. Je vois bien comment ça se passe. Ça veut dire changer tout le système éducatif. Je ne suis pas contre le spécialiste, je ne suis pas contre l'ingénieur des mines, je ne suis pas contre quelqu'un qui connaît le droit et qui sait à peu près quelles sont les pires erreurs que l'on peut faire et comment les éviter. Je pense qu'il faut enseigner et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, hein. Donc je suis pour la formation poussée, mais je suis pour commencer, bon, mais ça prendrait longtemps, mais je trouve qu'il faut prendre les gamins à 2 ans, surtout dans les cités. Il faut les prendre le plus jeune possible. Il faut déjà qu'ils soient capables de maîtriser la langue, qu'ils aient vraiment les mêmes chances, parce que beaucoup de gens sortent de foyers où Il n'y a pas un livre où il n'y a pas où on parle autre chose que le français à la maison. Enfin, il y a tellement d'inégalités à réparer dès le plus jeune âge que ça va tellement plus loin que le grand école, qui est l'aboutissement d'années d'études, de famille, de culture, de voyage, de lecture, de présence de bouquins à la maison, de conversation à la table. Ça va tellement plus loin que l'aboutissement à l'ENA qu'il y a du pain sur la planche. Voilà.
Oui, comment expliquer qu'on ait aussi peu de choix politiques face à cette situation? On va avoir un choix entre une rigueur de gauche, une rigueur de droite, c'est-à-dire une rigueur. C'est toute l'alternative qui se présente aujourd'hui. Comment on peut imaginer que notre réflexion d'une société, un choix de société qu'on a à construire là dans les mois qui viennent, soit sur une alternative aussi peu imaginative?
Et puis, je ne vais pas vous dire comment j'ai l'intention de voter.
Non,
je
ne suis pas ce que je demande,
entièrement sûr moi-même.
Comment se fait-il qu'avec les enjeux sociétaux qu'il y a actuellement, on ait aussi peu d'imagination chez des gens qui se considèrent comme l'élite?
Bon, enfin, je n'ai pas tellement le droit de dire ça en tant que présidente d'honneur d'attaque. Je dois être neutre et tout, mais je pense que les sociaux-démocrates sont devenus petit à petit des sociaux-libéraux et qu'ils ont suivi le mouvement et que petit à petit, il y a eu des renoncements qui ont mené la politique est un choix entre le pire et le moins pire. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il faut que... Mais il y a tout de même des choix, des possibilités plus... Alors, hélas, l'un de ces extrêmes, c'est Marine Le Pen. Ça, c'est pas la même chose. Mais ça fait partie de cette insidieuse victoire de l'idéologie, de tout ce que dénonçait Gramsci, de la longue marche à travers les institutions et de grandes victoires pour des gens qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans, dans cette conquête, et qui ont été récompensés pour leurs efforts et pour l'argent qu'ils ont mis dans la production et l'emprise idéologique. Ça marche. Les idées, ça marche.
Oui, je ne sais pas. Bon, alors, on me demande d'intervenir. Ben, moi, je crois qu'il y a, pour répondre un peu à la question qui a été posée, il y a un manque d'imagination de ce qu'on peut faire dans la vie démocratique telle qu'elle existe. C'est-à-dire qu'on peut certainement chambouler beaucoup de choses à condition de ne pas s'appuyer sur l'existant politique. Et la grande démarche que nous avons à faire en tant que citoyen, c'est à se prononcer d'abord en nous-mêmes sur ce que l'on veut et trouver les coalitions qui naturellement permettront de résoudre les difficultés que le système politique tel qu'il est actuellement ne régale pas. Et c'est-à-dire qu'on est passé effectivement des sociaux-démocrates aux sociaux-libéraux, on est passé d'une vue ferme des choses à une vue molle des choses, et c'est aux citoyens de se reprendre en main et d'exiger des gens qu'ils mandatent autre chose que des promesses mais des actes. Et on a un point sur lequel il faudrait que maintenant on se mette bien d'accord. Il y a dans les tuyaux pour le mois de mars 2012, ce qui est quand même tout à fait à côté de chez nous, il y a une tentation de créer un traité européen pour réglementer ce dont tu as parlé, la dette. Ouais. Comment est-ce qu'on peut concrètement s'opposer à ça? Parce qu'on ne voit pas dans le paysage politique de gens qui prennent ça fermement en main.
La règle d'or.
La règle d'or. Comment lutter contre la règle d'or?
Une question dans la salle.
Merci. J'aimerais connaître la position de Suzanne Georges.
Est-ce que vous pouvez parler vraiment dans le micro?
Dans le micro.
Merci.
Excusez-moi. Voilà. En tant que présidente d'ATTAC, j'aimerais savoir...
Présidente d'honneur.
D'honneur, pardon.
Voilà. Merci. Ça veut dire que les autres font le boulot.
Oui, bien sûr. J'aimerais savoir quelle est votre appréciation sur le revirement de Nicolas Sarkozy concernant la taxe Tobin, puisque c'est peut-être une question que vous avez posée systématiquement, mais ici à Poitiers, j'aimerais l'entendre de votre bouche. Oui. Merci.
Bon, mais c'est une travestie de ce que nous demandons depuis 12 ans. Hein. C'est absolument pas cela que nous avons voulu. Et quand il parle de taxer les transactions financières, mais de ne le faire qu'en France, ça exclut des opérations, pratiquement, ça exclut sur les marchés d'échange, parce que la France, c'est 3% de ses marchés, et même ce petit pourcentage peut être facilement parqué ailleurs. Donc, je ne vois pas que ça puisse rapporter beaucoup. Et ce que, apparemment, Sarkozy n'a pas compris ou n'a pas voulu comprendre, c'est que la taxe sur les transactions financières, sur les monnaies en tout cas, c'est sur une monnaie, c'est pas sur une juridiction, c'est une taxe sur l'euro. Et donc il faut que les pays dont c'est la monnaie, leur banque centrale, soient d'accord. Et on taxe la monnaie, et peu importe si l'échange a lieu aux Bermudes ou en France ou à Londres, ça n'a aucune importance, parce que où que ce soit, on peut, c'est trois lignes de code de software, et c'est pas techniquement difficile à faire. D'autre part, Sarkozy ne parle absolument pas de la destination des fonds qui seraient récoltés par une taxe même minuscule en France. Il ne parle pas de ce qu'il va faire, et mon impression, c'est que ça doit aller directo dans les coffres de l'État pour essayer de combler un peu son déficit, et que c'est pas du tout ce que propose ATTAC. Maintenant que nous sommes en coalition avec les syndicats sur cette question, nous avons la formule des trois tiers, un tiers pour diminuer la pauvreté chez nous, ensuite la lutte contre le réchauffement climatique, et troisièmement l'aide au développement classique au sud. Ça, c'est les trois tiers. Donc Sarkozy est très très loin du compte sur toute la ligne, à la fois sur l'objet de la taxe, sur la dimension de la taxe, et sur la destination des récoltes de la taxe. Ça n'a rien à voir. J'ai pas entendu. Un esbrouf, oui, mais c'est pas la première.
J'avais une question. Je suis là. J'avais une question par rapport à la banque européenne.
Oui. Qui parle, s'il vous plaît ? Merci.
Parce que je me demandais pourquoi les dirigeants des États membres ne voulaient pas changer le fonctionnement de la Banque européenne, puisque eux perdent de l'argent en empruntant à des banques plus chères, et donc ils font perdre de l'argent à leur pays.
Oui.
Donc qu'est-ce qui fait qu'ils ne changent pas le fonctionnement de la banque
Excellente question. Parce que nos États perdent. Et l'Allemagne, qui est le principal architecte de cette exigence, si jamais par inadvertance ou inactivité ou pour je ne sais quelle raison, ou par désir de punir, enfin un peu de rigueur protestant mal placée, si jamais on est forcé à retourner au Deutsche Mark, au franc, etc., l'Allemagne va perdre beaucoup. Et je crois que ces industriels doivent le savoir. Ils ne peuvent pas ne pas le savoir, parce que s'il y a un Deutsche Mark d'un côté, les marchés vont se ruer sur le Deutsche Mark, et ça va augmenter de valeur comme ça, très très vite. Alors les produits allemands deviennent plus chers immédiatement sur les marchés internationaux, et l'Allemagne vend beaucoup moins. Normalement, c'est à la portée de... On n'a pas besoin d'être économiste pour voir ça, et je suis sûre que les Allemands l'ont vu, mais d'après l'Allemand qui est venu nous rejoindre dimanche à la journée ATTAC, dette et démocratie, il a parlé lui aussi de fondamentalisme religieux. Il y a vraiment une sorte de regard comme ça à la tête de l'État. Et ceci dit, les Allemands commencent toujours par dire non. Et puis, trois semaines après, ils disent bon, peut-être. Et puis, ils cèdent petit à petit, mais jamais assez. Et jamais sur les points. Ils cèdent sur le montant du fonds de stabilité ou sur le fonds de sauvetage, mais c'est jamais assez. C'est ce que... Alors, c'est vrai. C'est, de nouveau, c'est le poids, je crois, de l'idéologie, parce que c'est dans l'intérêt de personne. Et surtout pas des peuples. Les Allemands sont obsédés par une chose, c'est l'inflation. Et ils sont persuadés, ce que je crois est une erreur, et je ne suis pas la seule, que si on commence à faire tourner la planche à billets à la Banque Centrale Européenne pour dédouaner la Grèce, le Portugal, etc., que ça va créer de l'inflation. Je ne pense pas que ce soit le cas. Pour le moment, tout ce qu'on donne aux banques, elles le gardent, et ce n'est vraiment pas dans l'économie, cet argent-là. Sinon, on s'en apercevrait. Il y aurait plus d'activité économique et plus d'emplois. Et ils sont obsédés par Weimar de 1922, où il fallait 3 trilliards et 4 brouettes pour acheter une baguette de pain, etc. Ceux que je considère comme les bons économistes classiques, pas marxistes, considèrent que nous ne sommes absolument pas dans une période où ça se produirait d'avoir de l'inflation. Et quand on voit les quantités d'argent qui ont été mises par le Fed dans le système, par la Réserve fédérale, minimum 16 1000 milliards, et peut-être jusqu'à 29, enfin je vous ai donné ces chiffres tout à l'heure, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait pour créer de l'inflation? On est à 1, quelque chose pour cent. C'est vraiment pas très très dangereux pour le moment. Je peux pas faire une réponse plus claire que ça, parce que je sais pas au-delà. Il faut demander à la Bundesbank et au secrétaire des finances allemand.
Juste une remarque à propos de la taxe Tobin. Sarkozy s'est fait engueuler par Angela Merkel parce que, avec l'argument que j'ai trouvé moi extraordinaire, ça ne peut pas marcher dans un seul pays. Bon, bah, alors il faut le faire dans tous les pays d'Europe. Ça me paraissait clair dans cette logique. Bon, bah, ça c'est une remarque au passage. Ma question c'est la suivante. Comment se fait-il que nos économistes, tous néolibéraux qu'ils soient, ne conçoivent pas que les politiques de rigueur créent des faillites, des fermetures d'usines, donc du chômage, donc du déficit, et que c'est un engrenage oui. qui est sans fin.
Je vais essayer de trouver une citation de Jean-Claude Trichet, qui n'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément. Enfin, il dit en gros que les marchés vont être satisfaits par la rigueur, par le sérieux. Mais il faudrait que je trouve. Ça m'avait fait tiquer, vraiment. Je ne sais plus dans quel. Non, c'est pas là. Désolée parce que je ne trouve pas mes... Non, ben décidément, je ne vais pas trouver... Mais vous avez raison de pointer cela du doigt, parce que vous pouvez avoir l'austérité ou vous pouvez avoir une politique qui injecte de l'économie, de l'argent dans l'économie et qui fait ce que, à peu près ce que j'ai dit. En plus, vous utilisez les bons du Trésor pour créer une économie verte, pour investir dans une transition vers une Europe écologique, etc., qui est un vivier d'emplois. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir à la fois une politique d'expansion et de l'austérité. Et c'est sûr. Et c'est cela que disent Krugman, Stiglitz, Martin Wolf du Financial Times, Olivier Blanchard du FMI. Beaucoup de gens très, très sérieux disent ça. Et toutes les ONG le disent. Et tous les gens, comme ici, le disent. Et pourtant, on n'entend que austérité. C'est pour ça que je trouve que l'idéologie, c'est un sujet très, très sérieux. Je vais naturellement trouver tricher trop tard, mais bon.
Je ne sais pas si vous cherchez encore. Oui, une question.
Oui.
Est-ce que vous ne pensez pas que les conflits d'intérêts peuvent...
Oh, je ne vous entends pas du tout.
Est-ce que vous ne pensez pas que les conflits d'intérêts pourraient, des personnes qui décident au niveau politique pourraient expliquer l'inaction qui était relevée tout à l'heure des États qui ne se mobilisent pas pour que les banques centrales, enfin pour que la Banque Centrale Européenne leur prête des sous directement sans passer par les banques. Est-ce que finalement les décisions des hommes politiques ne seraient pas plus claires si on avait une idée de leur patrimoine ou de là où ils ont placé leurs actions et finalement,
si on avait une patrimoine
si on avait une idée de leur patrimoine, ou je pense au conflit qu'il y a dans le médicament aussi, où on est en train de réaliser comme ça d'un seul coup que les gens qui accrédite, les médicaments doivent être plutôt neutres. Enfin, c'est plutôt mieux quand ils sont neutres et on voit ce qui se passe quand ils ne le sont pas. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes problèmes de conflit d'intérêts dans la finance et dans... je ne sais pas, par exemple, Mario Draghi, est-ce qu'on n'aurait pas des idées de ses positions si on avait une idée de son portefeuille ?
Je dois fatiguer, mais je n'ai pas compris la question. Et les capitaux qu'ils détiennent. Non, eux ne voient pas de contradiction parce que le capitalisme, c'est très court terme. C'est très, je veux mon profit demain matin ou dans 3 mois ou maximum 1 an, mais 1 an, c'est l'éternité. Alors ça marche pour l'instant. Si on est jeté dans l'austérité, c'est très bien pour eux. Ils n'ont jamais arrêté de gagner plus depuis à peu près la fin de 2009. Ça va très bien. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux. L'une des choses que font les Occupy Wall Street, que je trouve très drôle, c'est qu'ils vont dans les métros et ils font des quêtes pour les milliardaires. Et ils expliquent que pour croire, enfin, il faut pleurer sur le sort des milliardaires. Mais ça va très bien, les milliardaires. C'était ça la question ?
C'était pas ça la question.
Non. Je n'ai pas compris la question.
Connaître les revenus peut-être des milliardaires, c'est peut-être
la
situation de fortune.
Ah, mais on le connaît en gros, on ne le connaît pas en détail. Mais on peut aussi connaître en détail, probablement, il faut demander à nos amis du syndicat du SNUI, Syndicat National Unifié des Impôts. On peut, mais aux États-Unis, vous pouvez savoir quels sont. Vous pouvez consulter les déclarations fiscales. Il y a 3 chercheurs qui ont fait ça entre 1906 et 2004 ou quelque chose comme ça. Ils ont mesuré tout ça avec beaucoup de précision. On peut faire ce travail. Ce que l'on sait, c'est que le nombre de très très riches est en train de croître et que l'écart entre des gens, mettons, jusqu'à 200 000 dollars, disons, qui est déjà un bon niveau, mais entre eux et ceux qui sont au-delà du million de dollars, c'est vraiment un écart. Alors, on parle du 1%. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que c'est 1%, mais c'est du monde. Hein. Je cite le rapport sur la richesse dans le monde de Merrill Lynch, qui est l'une des boîtes qui a été sauvée, rachetée par la Bank of America. mais qui a été sauvée par l'argent public, parce qu'on a donné de l'argent public à la Bank of America pour la racheter à un très bas prix. Bon. Merrill Lynch fait le rapport sur la richesse dans le monde chaque année. C'était cette année la 11e, je crois. Et ce qu'on constate, c'est que le 1% le plus riche du monde, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les high net worth individuals, des individus à haute valeur individuelle, c'est-à-dire qui ont de l'argent à investir, c'est plus d'un million, non pas en voiture, en domicile, etc., mais vraiment en liquidité, prêt à investir. Ils sont... je ne sais plus combien... Ils sont peut-être 35... Non, ils sont à peu près la population de Paris, à peu près 10 millions de personnes. Qu'ensemble, ils ont maintenant 42 000 milliards. 42 et 12 zéros. Pour 10 millions de personnes. Mais moins de 1% de ces gens-là ont déjà 35% de toute cette richesse. Et on les appelle les ultra high net worth individuals. Mais c'est le moins de 1% du 1%. Et 10 millions, c'est... Oui, c'est un peu plus de 1%. C'est 1,3, quelque chose comme ça. Et puis, vous n'y êtes pas encore en haut de la pyramide parce qu'il y a une liste chaque année des super riches, mais là, il faut être milliardaire. Millionnaire, ça ne suffit plus. Et ils sont 1100 et quelques dans le monde. Et eux, c'est 1% de 1% de 1%. Alors, à ces auteurs-là, c'est pratiquement impossible à compter, mais on sait quelle est leur fortune. Ils en sont très fiers.
Qu'est-ce qu'ils en font ?
Eh bien, c'est ce qu'ils en font. C'est-à-dire, c'est le fait... Aux États-Unis, qui était un pays plutôt démocratique dans les années 50, ont taxé la dernière tranche de revenus à 90%, parce que c'est par tranche. Vous êtes taxé sur la première tranche bas et puis ça montait très vite. Et la dernière était 90%. Et maintenant, c'est 35%.
Bien.
Bonsoir. On a en France une spécialité politique, c'est le cumul des mandats.
Oui.
Et jusqu'à ce soir, j'avais jamais considéré que ça pouvait être une chance, mais peut-être... Justement, en se battant contre le cumul des mandats et en utilisant cette nouvelle possibilité de référendum d'initiative populaire, enfin semi-populaire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'obliger la société française à un appel d'air fort en faisant arriver sur des mandats locaux et nationaux des gens nouveaux, tout simplement en interdisant à ceux qui ont un mandat d'en avoir un autre? Et ma question est aussi pour les gens d'attaque plus généralement. Est-ce qu'on a un recul maintenant sur l'expérience qui a été faite au sujet de la Poste et de son statut? Et est-ce qu'on sait comment organiser une consultation populaire qui pourrait dépasser les 2 millions, 2 millions et demi qu'on avait eu pour espérer atteindre vraiment sérieusement 4 millions de personnes qui demanderaient l'interdiction du cumul des mandats pour créer un appel d'air et casser cette hégémonie culturelle favorable au libéralisme?
C'est une bonne idée. Je crois qu'il faudrait déjà discuter de si c'est la meilleure idée qu'on pourrait avoir pour faire un référendum qui attirerait du monde. Mais peut-être que c'est trop abstrait pour beaucoup de gens, je ne sais pas. Je n'ai jamais contribué à organiser l'une de ces consultations populaires, alors je ne suis pas la bonne personne à demander comment faire, mais pour les postes, c'était un succès. Il y en a eu un autre aussi Mais dans les non officiels, c'est à discuter. On peut très bien mettre ça sur, à l'ordre du jour à Attac et en discuter. Mais ma réaction immédiate, c'est qu'il faudrait trouver quelque chose un peu plus sexy que le cumul des mandats. Hein? Un peu plus saignant, je ne sais pas. Un peu plus.
C'est bon. Oui, sur la question des mandats, enfin, c'est quelque chose que je juge très très important aussi. Je pense qu'il faut, au-delà même du cumul des mandats, réfléchir à la nature du mandat quoi, lui-même. Il faut savoir que dans toute la tradition démocratique, il y a eu deux volets. Il y a eu la démocratie représentative, hein, celle que l'on connaît aujourd'hui, qui est obligatoire. Hein. Je crois que c'est l'article 27 de la Constitution qui interdit, au contraire, le mandat impératif. Au contraire de cette tradition du mandat représentatif, où les élus sont, ont complètement carte blanche pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin bon, pour faire absolument ce qu'ils veulent, sans rendre de compte à personne, et tout en étant inamovibles. Hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ils ne sont absolument pas tenus de respecter leurs promesses. L'article 27 de la Constitution est très clair. Ils n'ont rien à respecter. Une fois qu'ils sont élus, ils incarnent la nation. Ils sont des élus de toute la nation, y compris un simple conseiller municipal. Il incarne toute la nation. Ça aussi, c'est une conception très religieuse, quoi. On est dans l'incarnation. À l'inverse, et a fortiori, il faut savoir que tout ce qu'on a gagné en termes de droits sociaux, en termes de lutte, l'a été par des gens qui se sont organisés par eux-mêmes, par la base, quoi. Et sans passer justement par les représentativités, ou en tout cas en les débordant, qu'elles soient syndicales ou politiques. Et il s'agit du mandat impératif. Alors le mandat impératif, qu'est-ce que c'est ? C'est que l'élu, en tout cas la personne que l'on choisit, doit rendre compte à l'Assemblée et applique. Elle a un mandat technique où elle applique les grandes décisions prises par l'Assemblée. Ça peut être une Assemblée locale, une Assemblée fédérale. Les mandatés rendent compte. Ça, c'est très important. D'une part. Et d'autre part, ils sont révocables. Donc, ils appliquent. Ils sont révocables à tout moment. Et aussi, ils rendent compte en permanence. C'est-à-dire qu'ils sont complètement quoi, contrôlés par leur mandataire. Et ça, c'est très, très important. Et cette tradition du mandat impératif a toujours été détruite. Quoi, dans le sang, à travers plusieurs événements historiques, lors de la Révolution française, la première commune de Paris en 1792, quoi, 93, hein, bon, les sans-culottes ont été exterminés. On pourrait quoi, continuer avec 1848, quoi, l'écrasement aussi de la Révolution de 1848 qui était fondée sur ces idées-là. On peut parler de la Révolution donc avec les soviets qui ont été complètement trahis, hein, en 1917. On peut parler de l'Ukraine quoi, macnoviste. On peut parler de l'Espagne en 1936, où il y a eu un fonctionnement à très grande échelle de ce mandatement impératif et où la monnaie a même été abolie dans certaines communes. Donc moi, je crois que c'est tous ces exemples-là qui sont aussi importants. Je pense que le politique est aussi important que l'économique parce qu'ils sont intrinsèquement liés. Quoi. Voilà. Et c'est cette tradition-là qu'il faut remettre à l'ordre du... Non, ce n'était pas une question, c'était une intervention.
Je vous recommande l'expérience très récente de l'Islande. Aussi, où il y a eu un processus qui n'est pas exactement celui-là, mais qui est très proche, et qui a abouti à l'élection après des manifestations de rue où ils étaient un peu plus nombreux à chaque fois. Bon, c'est un pays de 330 000 habitants. C'est pas aussi difficile à manier qu'un grand pays, mais avec ces manifestations et ces défaites pour le Parlement, il y a eu une élection après de longues discussions, et tout était en ligne et on pouvait amender et changer tout. On a élu 25 personnes pour écrire une nouvelle constitution, et ces personnes ont continué à tout mettre en ligne. Et comme disait la jeune femme islandaise qui est venue dimanche, elle a dit « La sagesse de la foule est profonde. » Ce qui est, je crois, une bonne, très bonne appréciation de ce qui s'est passé. Et que à la fin, alors que les 25 étaient très différents, tout le monde dans la convention était d'accord, parce que toute leur méthodologie, c'était pour chercher le consensus, et le consensus avec tous ceux qui commentaient et qui amendaient de l'extérieur, en ligne surtout, mais aussi autrement directement s'ils le voulaient. Et que le document n'est pas encore approuvé, et la question que je voulais poser, et je n'ai pas la réponse, parce que je n'ai pas pu la poser, est-ce que ça va être approuvé, est-ce que ça doit être approuvé par le même Parlement qui a vraiment mis des bâtons dans les roues pour que ce processus existe? Mais toujours est-il que cette nouvelle constitution existe, que ça permet à 10 000 personnes, non, à 10 % de la population à mettre une proposition de loi sur la table ou à bloquer une proposition de loi qui est faite dans le Parlement, ce qui est une manière d'intervenir directement. Il y a différentes façons d'organiser la démocratie directe. Mais et là, il faut faire simplement attention à ce que je disais, je crois, sur la lenteur. Le Occupy Wall Street, c'est très bien. Tout est horizontal. Tout est l'Assemblée générale. Tout est... ça prend énormément de temps. Et pendant ce temps-là, le marché, lui, il est en train de bouffer encore trois repas, le temps d'avoir le micro populaire qui relaie l'idée qui est exprimée jusqu'au fond de la salle. J'ai trouvé mon trichet. Il dit l'idée que des mesures d'austérité, je traduis de l'anglais parce que j'ai trouvé dans le Financial Times en anglais, que l'idée que des mesures d'austérité pourraient déclencher la stagnation n'est pas correcte parce que des politiques qui inspirent confiance, il ne dit pas auprès de qui, les politiques qui inspirent confiance vont encourager et non pas empêcher la remise en forme économique, recovery. Quel est le mot que je cherche là,
Rétablissement
économique, c'est ça. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'ils répondent. Donnez confiance au marché et tout ira bien. Mais les mesures qu'ils imposent, c'est la descente garantie. Et n'importe qui peut le voir. Enfin, comme disait Groucho Marx, un enfant de 5 ans peut voir ça. Cherchez-moi un enfant de 5 ans. Hein, parce qu'il faudrait leur montrer qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre ça.
Bien. Mais alors, les deux dernières questions, si on doit libérer la salle à 11h pétante. Suzanne va pouvoir signer ses livres si elle veut. On donne les deux derniers micros.
Merci. S'il vous plaît, c'est une réflexion très, très, très brève sur le thème choisi par les organisateurs, à savoir le néolibéralisme contre les peuples, et puis qui aborde alors plusieurs niveaux, l'économie casino. L'économie casino, je viens de vous entendre parler du marché, c'est peut-être dans ce domaine-là. Mais l'autre, c'est confronté au réchauffement climatique et à ses effets, notamment au niveau de l'eau.
Ça, c'est Aurélien Bernier, je crois, qui va parler de ça en détail dans la deuxième conférence. Non, c'est pas ça. C'est ça. Moi, j'ai pas touché parce que moi, je fais pas les 6 conférences. Hein.
Je veux dire, je reste dans le cadre du sujet, du thème choisi aujourd'hui, c'est-à-dire à savoir si le néolibéralisme peut être contre les peuples si on ne maîtrise pas les éléments, c'est-à-dire le réchauffement climatique,
oui,
ou avec les populations, si on arrive à solutionner la question de l'eau et la nourriture. Alors, d'un côté, si on arrive à solutionner les questions de l'eau et de la nourriture, c'est qu'à ce moment-là, on ne subit plus le réchauffement climatique, et il faut voir si on est en néolibéralisme ou en néo-démocratie, ou encore une troisième solution qui est le dictatorial par rapport à la liberté. Parce que si on ne maîtrise pas les éléments...
La troisième solution, c'est quoi? Pardon?
Pardon?
La troisième solution, c'est quoi?
ce serait dictatorial.
Si
on n'y arrive pas et qu'on subit et qu'il n'y a plus de ni libéralisme ni démocratie. Donc.
Bon, mais c'est la dernière question, ça.
Non, il y en a une autre.
Parce que ma réponse à cette question est extrêmement déprimante. Et je ne veux pas vous laisser une dernière question sur quelque chose de très déprimante. Hein? Ok, encore une après. Alors peut-être qu'elle peut donner lieu à une réponse plus optimiste. Non, mais sérieusement, c'est quelque chose que j'ai essayé d'exposer il y a plus de 10 ans dans un livre qui s'appelle Le rapport Lugano. Et je crois que le capitalisme, maintenant, a compris ou a senti qu'il y a énormément de gens sur Terre qui ne comptent pas, qui ne sont pas intéressants, qui ne contribuent rien sur le plan de la production, qui consomment si peu que c'est pas la peine, qui, au contraire, mettent en danger l'environnement parce que, même s'ils ne font pas autant de dégâts que les riches, ils sont très nombreux, et que leur rêve, je veux dire le rêve du capital, ce serait d'en avoir beaucoup moins. Ce sont des gens rubbish, des gens un peu jetables. Et on voit ça par certains côtés chez nous déjà, mais évidemment dans le sud c'est bien pire. Et la nourriture, c'est un sujet que je connais mieux que l'eau, parce que j'ai beaucoup travaillé sur des questions agricoles pendant 10 années. Et quand je relis ce que j'ai écrit il y a 30 ans sur les moyens de résoudre la question de la faim dans le monde, je constate que c'est exactement la même chose aujourd'hui et que les mêmes moyens pourraient mettre fin à beaucoup de crises de la faim qui sont toujours causées par soit le manque de terre, soit le manque d'argent. Et que si on mettait en route des programmes d'agroécologie, que ce que l'on fait déjà sur 50 millions d'hectares, c'est pas rien, on pourrait augmenter les rendements de 2, parfois plus, 2 fois parfois plus, mais qu'on ne le fait pas parce que ça ne rapporte à personne sauf à ceux qui pourraient manger à ce moment-là. Ça rapporte ni aux fabricants d'engrais et de pesticides ni aux marchés internationaux, et donc on trouve quelquefois des gens très dévoués qui peuvent aider à mettre en place ces programmes, mais d'un autre côté maintenant on a des saisies de terres massives, des land grabs, des accaparements de terres en Afrique, en Asie, moins en Amérique latine, mais beaucoup en Afrique et en Asie, et toujours pas par les mêmes. C'est pas pour une fois par les très grandes boîtes d'agribusiness américaines ou européennes, c'est plus les Chinois, les Sud-Coréens, l'Arabie Saoudite, enfin, mais pour comme ils ont de l'argent et comme ils sentent qu'il y aura une pénurie dans l'avenir et qu'ils assurent leurs arrières. Alors ça me préoccupe beaucoup avec le réchauffement, parce que j'étais à Durban à la fin de cette conférence, aussi parce que l'institut dont je m'occupe est beaucoup de liens avec les gens d'Afrique du Sud, et cette conférence était un désastre après 2 autres désastres qui étaient Copenhague et Cancun, et maintenant j'ai l'impression que les gens, il est tard, hein, je termine, qu'on n'essaie même plus, on n'essaie même plus de faire avancer ça, et que on dit, bon, maintenant, on va appliquer quelque chose en 2020, mais c'est trop tard, 2020. Alors, bon, moi, je ne serai plus Mais j'ai des petits-enfants et bon, mais je suis très, très, très inquiète de tout ça. Allez-y, monsieur. Ah.
Là où on est préventif ou là où on est curatif. En rapport qu'on laisse baisser l'âge des populations,
oui.
On l'augmente. Enfin, si on est préventif, on augmente la durée de vie. Si on est curatif, on baisse la durée de vie.
Oui, il y avait beaucoup dans ce bouquin. Oui, mais bon, ce sont mes deux craintes. Ce sont mes deux craintes majeures. Ça ne m'empêche pas de continuer et d'essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais ce sont mes deux grandes craintes. Alors, la dernière.
Oui. Certains préconisent...
Qui parle, s'il vous plaît ? Pardon, merci, madame.
Pour quitter l'économie libérale, certains pensent qu'il n'y a pas d'autre solution que de quitter l'Europe. Donc je voulais savoir ce que vous pensez là-dessus, en disant que la constitution, le libéralisme est inscrit dans la constitution européenne, et donc que la seule solution, ce serait de quitter l'Europe. Donc je voulais savoir ce que l'Union européenne.
Oui, moi je crois que ce serait une régression. Je suis d'accord que la constitution n'est absolument pas le document que l'on veut. Je sais si j'ai essayé de lutter contre et de promouvoir... le nom, et j'ai fait même un livre là-dessus aussi, mais je crois que cette idée européenne est une très belle idée. Je sais bien l'histoire de l'Europe, enfin il y a l'histoire coloniale, il y a l'Europe a fait le meilleur et le pire, hein. Vraiment on a le talent de nous suicider aussi. Alors peut-être que ça va arriver, mais je crois que ce serait une régression, parce que pour moi l'époque des Lumières et les réalisations des Lumières, c'est l'une des très grandes conquêtes de l'émancipation humaine. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. Il y a des gens qui disent « Oh, les droits de l'homme, c'est vieux jeu, tout ça. » Il faut continuer à lutter pour la liberté de la presse, pour les droits de l'homme, pour la liberté d'expression, pour les choses qui ont été... des réalisations qui ont commencé au XVIIIe siècle mais qui inspirent encore, regardez les Tunisiens, regardez les Égyptiens et d'autres peuples arabes, parce que c'est la liberté de voter. Bon, c'est pas assez, je dis pas que l'émancipation s'arrête là, pas du tout, mais c'est la base de tout, c'est ce qui permet à ce que l'on se réunisse ce soir, à ce qu'on discute librement ensemble, qu'il n'y ait pas 36 flics à la sortie qui vont ou qui nous ont empêchés simplement de nous réunir, hein? Non, mais c'est ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être. Et la démocratie, c'est pas quelque chose que l'on a et qu'on l'a en permanence. Et qu'on n'a qu'à dire on est tranquille parce qu'on a ça. On a déjà vu que petit à petit, on essaie de reprendre toutes sortes de droits qui ont été gagnés par les luttes. Ben, je ne suis pas d'accord. Et je pense que la démocratie, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Comme ça, ce n'est pas une possession, c'est une chose que l'on fait et que l'on préserve et que l'on... Alors pour moi, l'Europe et le projet européen tel qu'il était est un beau projet, et que si c'est défait, ça va être d'une manière ou d'une autre la fin des Lumières. C'est ce que je crains. Ça ne sera pas partout en même temps chaque fois, mais ça sera un renoncement ici, un renoncement là, l'austérité qui gagne là, etc., le morcellement. Et pour moi, ça serait un désastre.
Voilà. Avant de remercier Suzanne Georges, quelques infos, parce qu'on doit absolument et impérativement libérer la salle avant 11h. Il y a une petite fiche, une feuille, que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez mettre vos coordonnées si vous désirez recevoir les infos. Sinon, il y a toujours le site Attaque Poitiers. Est-ce que Nicole, tu...
Oui, merci à Suzanne Georges.
Est-ce que tu peux rappeler la prochaine conférence avant qu'on parte? C'est Jean.
Mais on espère vous voir à toutes les autres conférences. La prochaine ayant lieu donc le lundi 20 février avec Aurélien Bernier qui nous parlera de l'environnement otage de la finance. Donc, et qui aura lieu donc à la maison des habitants de la Givaudrie, puisqu'on a essayé de faire les conférences dans différents lieux, dans différentes maisons culturelles de Poitiers.
N'oubliez pas notre petite boîte pour soutenir l'action politique. On a ouvert un compte aux îles Crocodiles.